Bienvenue sur le podcast « Si on sortait de la boîte ». Je m'appelle Caroline Prudhomme et je suis coach en relations conscientes. Mon intention avec ce podcast, c'est de t'offrir une invitation à sortir de la boîte de ton esprit et à croire que tellement plus que ce que tu vois est possible pour toi. À travers des épisodes solo, des partages d'expériences et des entrevues inspirantes, on explore une variété de sujets, de la spiritualité à la science, pour te permettre ce retour à ta souveraineté, profondément ancrée dans ton pouvoir personnel. On s'ouvre pleinement à ce moment où on s'autorise enfin à sortir de tout ce qu'on connaît pour aller à la rencontre de la personne qu'on est vraiment. La vie nous réserve de magnifiques surprises si seulement on accepte de les voir. Alors, es-tu prête à sortir de la boîte? Salut! Bienvenue sur un nouvel épisode de « Si on sortait de la boîte ». Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous présente un épisode de... avec Annie Prévost, qui est thérapeute en prévention de l'épuisement. Fait que Annie, elle nous raconte son parcours un peu, puis en plus, on a choisi de parler d'un sujet dans cet épisode qui nous est venu à cause des difficultés à se rencontrer pour le podcast, mais qui a été tellement, mais dans le fond, qui est tellement une conversation qui est importante d'avoir pour... s'autoriser à être nous-mêmes, en fait, puis à nommer notre vérité dans notre quotidien, puis dans toutes les sphères de notre vie, même quand on pense que ça va faire de la peine à l'autre, même quand on pense que ça va déranger l'autre, même quand, dans le fond, ça ne nous appartient pas tout ça. Mais Annie puis moi, on en parle plus longuement dans l'épisode. Je ne vais pas tout vous raconter. mais avant de vous laisser sur cette belle conversation-là, je voulais vous parler de Untame, qui est officiellement lancé depuis cette semaine. J'ai tellement hâte de vous accompagner sur ce chemin-là. C'est un accompagnement en un à un pendant un an. Puis en fait, avec Untame, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va sortir des boîtes justement qui ont été mises sur nous pendant toute notre vie. Les « il faut que », hey, « il faudrait que je fasse telle affaire, mon chemin de vie, c'est ça, la société me dit que genre je devrais avoir, je ne sais pas, là, moi c'est un stéréotype peut-être, mais que... il faut que j'aille à l'école, à l'université, que je rencontre quelqu'un, je me marie, je m'achète une maison, j'ai des enfants, un chien, blablabla, puis après ça, j'attends ma retraite. Et genre, moi, je peux pas. Ça, si ça te rend heureux, si ça te rend heureuse, tant mieux. Mais si il y a moindrement de la résistance, c'est que c'est pas tout à fait ça qui est aligné pour toi, puis ça, c'est juste des étiquettes que la société, elle nous met, dans le fond. C'est pas obligé d'être ça, notre vérité à nous, tu sais. Fait qu'il y a des réajustements, des fois, à faire. Des fois, c'est des réajustements vraiment subtils, mais des fois, c'est des gros réajustements pour aller voir, tu sais, c'est quoi les programmations qu'on a prises de l'extérieur. Puis, dans le fond, qu'est-ce que notre âme, elle est vraiment venue expérimenter dans cette vie-ci? Parce que c'est une merveilleuse expérience, l'expérience humaine, mais il faut s'autoriser à la vivre selon notre vérité à nous, pas qu'est-ce que l'extérieur nous dit qu'on devrait vivre. Puis c'est ça qu'on va faire avec Untame. On va aller vraiment en profondeur pendant un an. C'est pour ça que j'ai voulu le faire sur un an, parce que ça nous laisse tout l'espace. Tu sais, au début, notre système nerveux, il a besoin de temps pour se sentir en sécurité avec quelqu'un d'autre, puis pour se sentir en sécurité d'aller explorer qu'est-ce qui se passe dans notre subconscient, surtout quand... c'est nouveau comme type de travail, entre guillemets, ou comme type de pratique pour nous, ça nous prend un peu de temps. Puis je trouve que dans un contenant de 4 mois, on arrive à faire ça vers le 3e mois. Puis là, il nous reste juste 1 mois pour aller voir tout ce qui se passe pour de vrai, tu sais. Fait que là, j'ai décidé de le faire sur 1 an parce que je pense que c'est là qu'on a le plus de pouvoir de transformation, quand on a le temps de se déposer dans l'espace, avec la personne qui nous accompagne. Puis après ça, notre subconscient va nous montrer tout ce qui est prêt à être libéré dans le moment. Mais il faut laisser l'espace à notre système nerveux, en fait, pour se sentir en sécurité, puis se sentir prête à s'ouvrir dans cet espace sécuritaire-là. Fait que c'est ça qu'on fait pendant 1 an dans un thème. On va aller voir c'est quoi les programmations qui ne servent plus. En fait, après, on va aller débloquer tout ça, voir la racine de ces core wounds-là ou de ces narratifs principaux-là. Puis, on va aller voir qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui t'appartient pas, qu'est-ce que tu as envie de conserver. Puis après ça, on va reprogrammer ton subconscient avec quelque chose qui te sert mieux pour te permettre de manifester consciemment ta vie, plutôt que d'être, entre guillemets, une victime des programmations subconscientes que tu as déjà, qui ont été j'aime pas trop implanter, là, ça sonne comme une puce, mais en tout cas, qui sont ancrés en toi, en fait, depuis ton enfance ou depuis même avant ça, par tes, ton héritage, j'ai juste lineage en tête, le mot anglophone, par ta lignée, en fait. Fait que c'est ça. Si ça t'intéresse, si ça vibre avec toi, la page de vente est maintenant en ligne. J'ai eu tellement le fun à la faire. En plus, là, c'est comme mon inner child capotait, elle a créé tout ça, genre avec tellement de joie. La journée de 8 heures que j'ai passé à travailler là-dessus a passé en un claquement de doigts, tellement j'avais du plaisir, ce qui n'est pas le cas d'habitude pour moi quand je fais des pages de vente. Fait que je suis vraiment contente d'avoir trouvé ma zone de création, en fait, pour cet espace-là. Pour cette tâche-là, entre guillemets, que j'ai besoin de faire dans mon entreprise, mais qui n'était pas ce qui m'a apporté le plus de joie, disons. Maintenant, c'est plus comme ça que ça se passe, fait que je suis vraiment, vraiment contente. Alors, la page d'Untime est dans les... pour avoir toute la description, en fait, est dans les notes du podcast. Puis si tu as envie d'en parler avec moi avant, c'est vraiment pas obligatoire, mais si tu ressens le besoin d'en parler avec moi avant parce que t'es pas sûre, tout ça, c'est un gros engagement, un an quand même. Puis c'est un investissement financier. Tu sais, même si je l'ai mis vraiment abordable, comme c'est la première fois que je lance ce programme-là, pour le lancer, il est super abordable. Il est à 3333 $ pour l'année au complet. Fait que si on le fait en 12 paiements, ça revient à même pas 100 $ la session, en fait, parce qu'on a 3 séances par mois, puis c'est à 278 $ par mois. Fait que voilà, puis les paiements aussi, il y a différents choix de paiement, mais il n'y a pas d'intérêt sur les paiements. Fait que c'est le même montant initial, mais qui est séparé seulement en plus de versement. J'avais versalité en tête. Bizarre, j'invente des mots aujourd'hui. Fait que voilà, si tu as envie d'en parler avec moi, prendre une conversation découverte, je serais vraiment contente d'en discuter avec toi. Puis c'est juste 30 minutes. C'est 30 minutes qu'on est ensemble juste pour discuter de ta situation actuelle, puis j'essaie pas de te vendre mon programme, là, je crois pas en ce type de vente-là. Moi, je pense que on offre, en fait, la transformation, le programme qu'on a envie d'offrir, la transformation qu'on a envie d'offrir, puis si c'est pour la personne, elle sait. C'est toi qui le sais, en fait. C'est toi qui as ce pouvoir-là pour toi-même. Moi, j'ai pas le pouvoir de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Fait que moi, j'ai juste à te présenter qu'est-ce que j'ai envie de t'offrir. Puis ensuite, c'est à toi de choisir si tu choisis d'embarquer là-dedans avec moi. Fait que voilà, j'ai vraiment hâte qu'on commence cette année-là ensemble. Puis si vous avez des questions, écrivez-moi. L'appel découverte est là, comme je viens juste de dire. Il y a aussi l'outil gratuit Lever le voile qui est disponible. Puis si tu te demandes, tu sais, c'est quoi le travail de manifestation consciente que je fais, bien en fait, tu peux aller voir l'outil Lever le voile, puis ça va vraiment te donner une super belle idée de comment je travaille, en fait, parce qu'il y a une visualisation profonde là-dedans, j'explique comment notre subconscient fonctionne, pourquoi on va aller reprogrammer notre subconscient, en fait, il y a des journal prompts aussi, fait que tu sais, c'est toutes des techniques, des outils que j'utilise, en fait, dans mon accompagnement, fait que si tu as envie de voir avant, de prendre une décision, ben va télécharger l'outil gratuit Lever le voile. Il y a vraiment plein de valeurs là-dedans. Je le sais que c'est sûr que tu vas avoir des pépites d'or, de clarté qui vont venir après. Fait que voilà, le lien pour l'outil est aussi dans les notes du podcast. Et puis, je vous laisse sur ma conversation avec la merveilleuse Annie Prévost. Bonne écoute! Salut Annie, bienvenue sur Si on sortait de la boîte. Je suis vraiment contente que tu sois là avec moi aujourd'hui. Comment ça va?
Salut, ça va bien. Je suis contente aussi qu'on réussisse après une troisième prise enfin à coordonner le moment pour pouvoir se parler. J'avais bien hâte.
Moi aussi, c'est vrai qu'on a eu des bumps in the road. On se rencontre aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais bon, on va pouvoir en parler tantôt. Je voulais commencer avec la même question que je pose toujours au départ, qui est qu'est-ce qui a déclenché ton évolution personnelle?
Bien, il y a vraiment eu plusieurs étapes quand même dans ma vie qui ont amené du cheminement de façon plus approfondie. C'est rare hein, qu'on me pose la question, mais comme je ne m'y étais pas préparée, je vais y aller comme ça vient. Initialement, je dirais, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu un accident assez majeur. Je suis tombée dans une falaise et j'ai vraiment eu peur de mourir. Et ça a été un premier déclencheur pour moi qui m'a permis de prendre des décisions importantes et de me réaligner. À ce moment-là, j'étudiais en sciences pures au cégep. J'étais vraiment là pour faire plaisir. Là. J'étais une bonne élève et j'avais suivi un peu ce chemin-là parce que c'est celui auquel apparemment j'étais destinée vu mes notes. Et ça me convenait pas du tout. Donc, suite à cet accident-là, j'ai pris la décision de lâcher le cégep. Et ça, c'est là que j'ai vraiment commencé à faire un chemin plus intérieur, puis à commencer à apprendre à me connaître, à prendre des décisions pour moi et non pas pour faire plaisir aux autres. Ce qui m'avait pas mal toujours guidée dans mon parcours jusqu'à ce moment-là, dans le fond, de beaucoup, beaucoup faire les choses en fonction des autres, pour faire plaisir, pour aider, pour sauver la terre entière. Tu sais, moi, quand j'étais petite, on m'appelait déjà Mère Teresa, fait que ça fait longtemps que j'ai comme cette étiquette-là de coller. Fait que ça a été la première étape. Puis après ça, bien évidemment, comme à peu près tout le monde, il y a eu plusieurs épreuves. J'ai un amoureux qui est décédé dans un accident d'auto. Ça a été un autre coup dur. Puis après ça, ben tu sais, veux pas, la maternité. C'est des grandes étapes de vie, je pense, qui nous amènent à chaque fois un peu à se repositionner, à se redéfinir, à se questionner. Et la plus grosse, je dirais, ben, c'est mon burn-out. J'en parle souvent. Pour moi, aujourd'hui, avec le recul, c'est un magnifique cadeau parce que sans ce burn-out-là, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui et je ne serais pas autant alignée que je le suis aujourd'hui. Fait que, tu sais, je pense qu'il n'y a pas une chose. C'est un mix de tout ça qui, à chaque fois, m'a permis de faire un petit bout de plus et je pense qu'il va en avoir encore plein d'autres steps comme ça que je vais prendre au courant des prochaines années.
Oui, mais c'est vrai que tu as raison, c'est pas un élément, jamais un élément, c'est toujours un chemin, tu sais, qui va, mm-hmm. en fait, qu'on va marcher toute notre vie à partir du moment où on choisit de le marcher, je pense, parce qu'il y a des gens, en tout cas, je le vois, je le constate dans mon environnement, puis même en général, il y a des gens qui prendront pas ces cadeaux-là, comme des cadeaux, ces événements-là comme des cadeaux cachés, justement, puis qui vont juste continuer mm-hmm. à... c'est qu'ils vont pas accepter de step in genre dans leur conscience disons puis de choisir d'évoluer, tu sais, qu'ils vont continuer à recevoir des coups de 2x4 cosmiques en arrière de la tête. C'est Mark Grove, il dit ça, puis je trouve tout ça drôle.
Mais des fois, ça prend une couple de coups de 2x4 pour réaliser. Puis des fois, c'est après 2-3 épreuves que là tu additionnes tout ça ensemble et que tu sais, c'est comme tu fais le lien et là il y a le passage à l'action. Pour ce qui est de mon burn-out, a quand même fallu que je retourne travailler, que je me remette une deuxième fois en situation quasi de burn-out pour prendre action. Donc, tu sais, ça n'a pas été automatique sur le coup. Fait que je peux comprendre des fois que ça demande plus de recul pour être capable de sortir un peu de l'émotion vive que l'épreuve peut nous avoir fait vivre et d'être capable de prendre conscience de ce que ça nous a amené de positif, parce que c'est sûr que, surtout dans des grands drames, ça vient tellement nous secouer que ça prend parfois du temps avant d'être capable de dire « Ah, c'est un cadeau », tu sais, finalement. Puis des fois, ça prend des années pour être capable de le faire. Puis des fois, il y a tout un processus de deuil aussi qu'on doit faire avant d'être en mesure là, de pouvoir faire ces prises de conscience-là. Fait que c'est pour ça que je pense, oui, effectivement, que c'est un chemin. Puis qu'on continue toujours de faire des liens, des fois, même 10-15 ans plus tard sur des événements du passé. Puis c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, ça devient toutes des petites pièces de puzzle qu'on colle ensemble. Puis il sera jamais vraiment fini, ce puzzle-là. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on en trouve toujours une de plus, puis une de plus. Puis des fois, on en trouve une, puis c'est pas le bon casse-tête. Fait qu'elle rentre pas dedans, qu'on la met de côté. Puis on continue de chercher. Fait que tu sais, je pense que ça a quelque chose d'amusant aussi comme expérience.
Oui, puis en fait, quand on accepte cette expérience-là, si je peux dire, là, tu sais, si on accepte d'aller là-dedans, ben on fait juste découvrir plus de nous, en fait. C'est ça qui est merveilleux, tu sais, à chaque fois. Puis c'est vrai que quand on est... Je suis tout à fait d'accord avec toi, quand on est dedans, souvent, on s'en rend pas compte, là, que c'est un cadeau. Puis ça prend du recul, puis ça prend d'avoir traversé les grosses émotions qui sont là au départ, tu sais, pour le voir. Mais, c'est comme si c'est des couches qu'on enlève à chaque fois de nouveau. Puis quand tu disais tantôt que tu es retournée, il a quand même fallu que tu retournes au travail puis que tu as manqué d'avoir un deuxième burn-out. Ça m'a fait penser à quand tu parlais de people pleasing puis de codépendance un peu au début, là. Genre, mm-hmm. est-ce que tu penses que c'était une autre couche que tu étais prête à enlever de ces programmations-là, justement, ou ça n'a rien à voir? C'était pas pour faire plaisir à l'extérieur, c'était plus pour autre chose?
À ce moment-là, par rapport à l'épuisement, c'était pas tant pour faire plaisir, c'était plus relié à la performance, je te dirais. Mmh. Donc, c'était plus le perfectionnisme et le fait de vouloir me prouver, puis la difficulté à admettre que j'avais des faiblesses. Là. C'était vraiment plus à ce niveau-là. Fait que je vais me prouver que tu sais, je suis capable, puis je vais passer par-dessus, puis que je suis forte et tout ça. Fait que j'étais beaucoup dans ça. Et dans... tu sais, moi, j'ai longtemps rêvé d'enseigner au cégep. Et là, c'était quand j'enseignais au cégep. T'sais. Fait que c'est comme si dans ma tête, c'est comme, tu travailles tellement fort pour te rendre là. Puis là, es-tu vraiment en train de te dire finalement que c'est pas ça? Fait que c'est comme si je venais invalider tellement plein de choses. Puis ça remettait en question tellement plein de décisions que c'était très difficile pour moi à accepter de laisser aller cette partie-là de ma vie pour laquelle j'avais quand même travaillé très, très, très fort. Et de dire, ben ça m'enlève rien, ça enlève rien à ma valeur de prendre la décision finalement de suivre un autre chemin que celui-là. Et justement, ce chemin-là était nécessaire. J'avais besoin d'aller vivre cette expérience-là, d'enseigner au cégep, et même si ça a duré 7 ans, pour être où je suis aujourd'hui. Parce qu'avant d'enseigner au cégep, j'étais intervenante en petite enfance. Et quand j'ai étudié dans ce domaine-là, je disais, moi, je ne travaillerai jamais avec des adultes, j'accompagnerai jamais des adultes, tu sais, moi, je veux pas, moi, c'est les enfants et tout ça. Là, après ça, je suis arrivée, j'enseigne au cégep, j'ai commencé à enseigner à des adultes, j'ai adoré ça, j'ai commencé à faire des conférences et tout ça. Et là, j'ai eu le burn-out, puis c'est là que ça m'a amené à dire intervention plus adulte, finalement, bien, peut-être que finalement, j'ai envie de m'ouvrir à intervenir avec des adultes, accompagner des adultes. Mais j'étais pas du tout prête à admettre ça ou même à le réaliser que j'avais cette capacité-là quand j'ai commencé mes études à l'université. Il a fallu que je traverse chacune de ces étapes-là pour m'ouvrir davantage aux possibilités, mais aussi pour guérir des blessures. Parce qu'évidemment, si je disais, moi, je travaillerai jamais avec les adultes, c'est qu'il y avait des blessures cachées derrière cette affirmation-là qui, tu sais, on s'entend, on s'écoute parler des fois, puis... on est rempli de pseudo-vérités, on généralise, on dit « moi, de toute ma vie, je ferai jamais ça » ou « je serai jamais comme ça » ou « je croirai jamais en ça ». Mais la vie nous surprend continuellement à des fois nous remettre face à nos propres incohérences ou nos propres distorsions. Donc moi, ça me fait sourire à chaque fois que j'en découvre une de plus parce que je me dis « ah, tu sais, j'aime bien me rappeler qu'un jour, j'ai dit que je ferais jamais ça ». On fait ça souvent, tu sais.
Souvent, vraiment souvent, là, tu sais. Puis c'est pour ça que maintenant, j'essaie d'être vraiment nuancée parce que je le sais que la personne que je suis aujourd'hui, demain, je vais apprendre des nouvelles choses qui vont faire que j'aurai peut-être plus le même point de vue sur certaines choses, tu sais.
Tellement.
Fait que c'est pour ça que des fois, je trouve ça difficile de me positionner sur certains sujets. Puis je me rends compte de plus en plus que j'ai pas besoin, en fait, de le faire. Que je peux juste être curieuse d'entendre les perspectives de tout le monde, puis après de prendre qu'est-ce qui me convient, moi, dans ces perspectives-là. Mais tu sais, il y a quand même des choses sur lesquelles, tu sais, à l'intérieur de moi, ça sonne pas aligné, puis genre, je peux pas aller là, mais ça veut pas dire que c'est nécessairement mauvais, ça veut juste dire que pour moi, c'est pas ce qui est bon, tu sais, mais c'est vrai, t'as raison, tellement souvent on fait ça, puis là, tu sais, c'est dans les derniers mois, je te dirais, j'essaie d'être plus consciente de ça.
Parce qu'on se ferme des portes, en faisant ça. Puis ce qui arrive, puis je le fais souvent réaliser aux femmes que j'accompagne, mais c'est quand tu te fermes cette porte-là à l'intérieur, tu te fermes aux opportunités parce que notre cerveau, il porte attention aux choses qui confirment nos croyances. Donc, si tu es convaincu que tu ne feras pas X choses, toutes les opportunités qui auraient pu potentiellement être intéressantes pour toi en lien avec ça, il y a des chances que tu y portes même pas attention finalement parce que t'es coincé un peu dans ta croyance de où tu t'en vas dans la vie, ce que tu vas faire. Moi, je suis bonne dans ci, j'ai telle compétence. Mais est-ce que tu t'es donné la permission d'explorer peut-être d'autres champs que de possible, tu sais, en dehors de ces croyances-là parce que t'as peut-être des compétences que tu penses que t'as pas finalement. Puis que tant que t'essaieras pas, tu le sauras pas que tu l'as, cette compétence-là. Puis tu sais, tu disais, j'hésite à prendre position puis je te comprends. Mais on peut aussi se donner le droit de changer d'idée. Puis ça, je trouve que c'est de plus en plus difficile dans notre société avec les médias sociaux et tout. On dirait qu'une fois que tu as dit quelque chose, tu n'as plus le droit de changer d'idée. Tu sais, c'est comme, on va te cataloguer comme une girouette ou peu importe. Si un jour tu t'évolues et tu changes d'idée, tu n'as pas le même point de vue ou tu n'as pas la même façon de pratiquer ton métier ou simplement que tu changes de méthode, bien là, c'est problématique. C'est souvent vu de façon négative.
Pourtant. Ouais, c'est vrai. Puis pourtant, on apprend des choses, nous comme individus, mais comme société aussi. Là, puis même, tu sais, toutes les sphères scientifiques, toutes les peu importe, on fait des évolutions, on fait des découvertes à chaque jour, pas mal, tu sais. Fait que c'est normal là, de changer
la science, de vie. Là, souvent, tu vas entendre du monde dire « Ah, ça vaut rien la science, t'as une étude qui dit tout et son contraire. » Ouais, mais ça fait partie de l'évolution, tu sais, puis ça dépend du contexte, puis ça dépend de tellement de facteurs, mais les gens vont dévaloriser la valeur de ce travail-là parce qu'il y a des changements de position avec le temps, mais c'est, on n'existerait même pas comme humain s'il n'y avait pas d'évolution. On serait peut-être encore des têtards quelque part dans le fond d'un lac, mais tu sais, je veux dire, c'est comme, c'est ça la vie.
Mais c'est ça la vie, puis en plus, c'est quand tu parles de la science, c'est que le processus scientifique, c'est ça, d'émettre une hypothèse, puis d'aller voir si elle est fondée ou pas, puis après ça, de rediriger, tu sais, puis là, ah, OK, peut-être que cette partie-là, finalement, oui, mais là, il faut faire une nouvelle... Fait que c'est sûr que ça change, là, tu sais, ils peuvent pas... je sais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire quand on essaie d'amener des...
Je trouve ça fâchant parce que, justement, je vois qu'il y a de moins en moins de gens qui osent prendre position, alors que... Tu peux assumer quelque chose, prendre position, le défendre de tout ton cœur si, justement, tu sais, l'intention est bonne et que c'est vraiment aligné, ça vibre avec toi à ce moment-là. Ça n'empêche pas qu'un jour, ça ne sera plus aligné, ça ne vibrera plus. Si c'est le cas, ça sera correct aussi, tu sais, ça fera simplement partie de ton évolution. Puis, il ne devrait pas avoir de honte rattachée à ça. Puis souvent, malheureusement, il y en a, tu sais, c'est comme je ne suis pas une bonne personne ou je ne suis pas cohérente ou je manque de crédibilité parce que je change d'idée. Bon, des fois, il y a des gens qui changent très, très vite d'idée. Alors ça, ce que ça peut amener des fois, c'est est-ce que cette personne-là prend le temps de se connaître aussi, tu sais, laisse les informations venir à elle et prendre le temps, tu sais, d'avoir du recul peut-être avant de prendre une prise de position. Ça, c'est certain que c'est quand même important. Mais reste que, tu sais, si t'es bien avec ça, je pense qu'il ne faut pas se priver de l'exprimer au risque de changer d'idée un jour.
Là, mais c'est
ça,
pas c'est... tant de me priver de l'exprimer, mais c'est plus que je vois les nuances dans tout. T'sais, je le vois bien qu'il n'y a pas vraiment de vérité absolue dans rien. T'sais. Fait qu'il y a des choses qui sont très alignées avec moi qui sont non pour moi. Puis là, sans embarquer dans tout ça, là, c'est des affaires que je passe souvent sur le podcast, mais disons le système scolaire traditionnel. Mais c'est juste que de sortir de ces boîtes-là, en fait, qu'on s'est mis, puis d'être curieux, puis de voir toutes les nuances qu'il y a autour. Fait que c'est plus dans ce sens-là que je veux dire, j'hésite des fois à me positionner parce que, tu sais, si, à moins que ce soit une vraie, tu sais, que ce soit très aligné puis que je sente que c'est très ancré pour moi, ben je le sais que je vais continuer à découvrir des pièces d'information un peu partout puis qu'il y a certaines choses qui vont résonner avec moi, d'autres non, puis c'est correct, tu sais, fait que c'est pour ça où j'ai de la difficulté à être dans le noir et blanc souvent.
Mais oui. et si c'était une prise de position?
C'est vrai, t'as raison. Oui.
Dans le sens que c'est ça reste... Toi, tu te positionnes comme quelqu'un qui est dans la nuance et que, tu sais, mais ça reste... Pour moi, une prise de position, c'est quelque chose auquel on adhère. Donc, peu importe l'opinion, pour moi, ça reste une prise de position. Et je trouve ça extraordinaire comme prise de position parce que, selon moi, ça demeure une prise de position qui est dans l'ouverture et qui est prête peut-être à entendre ce que tout le monde a à dire. Mm-hmm. Puis quand on est trop canté dans un extrême, noir ou blanc, puis on l'a vu, on a vécu quelques débats de ce genre dans les dernières années, c'est de plus en plus difficile d'écouter l'autre opposé. T'sais, plus on s'en va vers les extrêmes, plus c'est difficile d'entendre. On finit par se convaincre que c'est la vérité absolue, puis que finalement, nous, on a raison et tout le reste de l'humanité a tort. Puis j'ai aimé t'entendre dire, tu sais, il n'y a pas de vérité, puis ça, je le répète souvent, mais tout est toujours une question de perception, finalement.
Mais oui, puis comme quand tu disais tantôt, tu sais, par rapport même à des études scientifiques que tu peux avoir plein d'interprétations sur la même, bien justement, parce que ça dépend, comme tu parlais du biais de confirmation, tantôt, ça dépend de ta perception à toi, la façon dont tu vas interpréter qu'est-ce que tu lis, tu sais, fait que...
Exact.
C'est là où je suis genre... pas tant de vérité absolue.
Arrêtons de chercher à convaincre tout le monde, tu sais, de penser exactement comme nous, parce que si c'est ce qui arriverait un jour, je pense qu'on on se brimerait de beaucoup de potentiel et beaucoup de possibilités là, si on finissait par tous penser la même chose. Là,
ça serait ça serait triste aussi au niveau de la connexion humaine, là, tu sais, il me semble. Ouais. En tout cas.
On s'ennuierait un peu.
Oui, c'est ça, Hey, j'aimerais ça revenir sur qu'est-ce que... Tu parlais justement un peu de codépendance et de people-pleasing ce matin. Au début de notre conversation, ce matin.
Ce matin à 15h.
Mais ça me fait penser à notre situation de remise de podcast plusieurs fois, c'est de se donner, comme on disait, l'autorisation de nommer les choses de la façon dont elles sont pour nous.
Ben, c'est tellement, tellement fréquent. Puis j'ai même fait un sondage dans mes stories pour voir comment les gens réagiraient à ça. Est-ce que ça t'arrive souvent de ne pas oser, de faire des choses qui sont désalignées pour toi, qui ne te conviennent plus ou que tu n'as pas envie, parce que tu t'es préalablement engagé et que là, tu te sens mal d'avoir changé d'idée. Donc, ça revient un peu à ce qu'on discutait. Donc, tu te sens désaligné, tu te forces à faire quelque chose dans lequel tu te sens désaligné parce que tu ne veux pas décevoir, parce que tu veux être fidèle à ton engagement, ta parole est importante. Et comme nous, ce qu'on a vécu, souvent de juste ouvrir la discussion, de parler de ce que tu ressens et tout ça, c'est assez fréquent que l'autre personne, finalement, espérait presque que tu lui fasses cette demande-là parce que peut-être qu'elle aussi, elle s'empêchait de dire que ça lui convenait pas ou que c'était pas le bon timing ou que finalement, ça l'arrange pour toutes sortes de raisons. Donc, pourquoi on se donne pas au moins la permission d'ouvrir le dialogue par rapport à ça? Puis c'est fou à quel point on s'empêche de le faire dans tellement, tellement de contextes différents, professionnellement, personnellement, au niveau familial et tout ça, ou même avec nous-mêmes. Hein?
Mm. Oui, c'est ça, des fois c'est insidieux, tu sais, on s'en rend même pas compte. Puis on se dit, ben non, je le fais parce que ça me dérange pas dans le fond, mais c'est pas vrai, là, tu sais, c'est juste parce que, genre, tu veux pas décevoir. Puis c'est aussi, je pense, parce que on se dit, on interprète à la place de l'autre, en fait, tu sais. Si je dis ça, elle va se dire que ça veut dire ça. Ben non, ça veut pas dire. Tu sais, comme tu dis, des fois, ça va très bien arranger l'autre personne. Puis non seulement ça, mais en se laissant pas le droit, je pense, de nommer ces choses-là. C'est comme si pour pas abandonner l'autre, on s'abandonne nous-mêmes, en fait, tu sais.
Puis on rend pas service à l'autre en faisant ça. Parce que c'est toute la question du consentement aussi. Quand on dit oui à quelque chose qui ne nous convient plus, pour moi, c'est un faux consentement. Puis à partir du moment où on donne un faux consentement, donc on dit oui alors qu'au fond de nous, ça vibre non, bien on place l'autre personne dans une drôle de position. Ça se peut qu'on arrive là-bas, qu'on ne soit pas dans notre pleine énergie finalement, qu'on laisse sentir un peu que ça ne nous tentait pas d'être là finalement, des petits soupirs à gauche, à droite, des petits commentaires. Puis là, l'autre personne ne comprend pas trop ce qui se passe parce qu'on lui a dit oui, puis elle peut se mettre à culpabiliser ou à dire « ben voyons, je suis désolée, je voulais pas prendre de ton temps » ou tu sais, elle va se sentir mal parce que toi, t'as pas l'air d'être bien d'être là. Donc, c'est un peu comme si on la met dans une position, premièrement, qu'elle a pas choisie, hein, qu'on lui a imposée par notre faux consentement, puis ça devient un peu notre bourreau, dans le fond, tu sais, comme si elle nous avait forcé à être là. Mais au final, si on reprend notre responsabilité, c'est nous qui avons dit oui. Mmh. Ça, c'est pas facile à admettre, mais ça reste que c'est notre responsabilité. On peut toujours dire non. C'est toujours possible. Évidemment, il y a des conséquences parfois. Je ne dis pas que c'est facile, mais on peut toujours dire oui ou non. Mm-hmm. Ça reste notre choix ultime. Donc, reprendre notre responsabilité par rapport à ça, puis se rendre compte que de dire un faux oui pour faire apparemment plaisir, bien, parfois, ça fait exactement le contraire. On place l'autre dans une position très désagréable.
Oui, puis je pense aussi que c'est un acte d'amour de soi, en fait, en premier, mais aussi un acte d'amour envers l'autre, parce que cette personne-là, elle mérite de mettre son temps dans un espace avec quelqu'un qui a envie d'être avec elle ou en train de faire quelque chose qui lui plaît vraiment ou tout ça, pas sentir, comme tu dis, qu'elle est un peu comme le bourreau sans avoir consenti à ça, tu sais, fait que on peut, je sais pas si pourquoi ça a été catégorisé comme égoïste, tu sais, ce type de choses-là dans notre société, mais en fait, c'est vraiment du gros people-pleasing, là, tu sais, puis c'est même pas de se respecter soi-même, mais non plus de respecter l'autre, d'aimer l'autre, puis nous-mêmes, là.
pense que quand
même... Je sais que c'est difficile à faire, là. Je sais. Moi aussi, c'est un chemin, là. Ça a l'air facile quand je le dis, mais non, là.
Mais il y a du judéo-chrétien là-dedans, là.
Ouais.
C'est l'engagement, la parole, solennel, tu sais, comme si on ne peut jamais revenir sur... Mais tu sais, moi, je pense qu'on peut toujours revenir. Faut... Tu sais, encore là, il faut ouvrir le dialogue déjà. Puis je dis souvent à mes filles, si tu demandes pas, tu as zéro chance d'avoir une réponse, d'avoir un oui. Si tu demandes, tu as au moins une chance d'avoir un oui. Donc, tu n'as absolument rien à perdre. Au pire, ça va être un non. Mais tu ne seras pas moins avancé que là à rester dans une espèce d'état d'inconfort, de statu quo, de je sais pas trop. Tu sais, au moins, là, tu fais un mouvement vers une possibilité de trouver une solution qui va être plus alignée à toi. Ça se peut que ça ne convienne pas tout à fait, mais ça se peut quand même qu'on arrive à une tierce solution, donc un compromis finalement qui va arranger un peu les deux personnes. Donc, tu sais, mais pour ça, il faut l'ouvrir, le dialogue. Puis il y a toute la question, oui, de responsabilité et d'arrêter de prendre la responsabilité de l'autre sur nos épaules. Parce que quand on devine à leur place, ah, je vais la déranger, ah, elle va être fâchée, ah, bien là, je suis en train de mettre les limites à sa place. Oui. C'est pas ma job à moi de mettre les limites pour elle. C'est à elle de les mettre. Moi, ma job, c'est d'exprimer mes besoins, c'est de, tu sais, c'est d'arriver dans la relation en étant le plus transparente possible. Et l'autre personne, si elle a à mettre une limite, elle va la mettre, ça lui appartient. Mais c'est correct. Puis ça, je le rappelle souvent, c'est correct de demander, là. C'est pas un crime, parce que ça aussi, c'est mal perçu souvent, là. Tu sais, les personnes qui osent nommer les choses, qui osent demander, qui vont comme chercher les opportunités, là, ça dérange beaucoup de gens. C'est comme, c'est des opportunistes, pour qui elle se prend, elle pense que tout lui est dû. Et si tout le monde osait davantage demander, mais waouh, on en réglerait des problèmes, parce que combien de fois il y a des gens dans leur coin qui attendent qu'on vienne leur dire... T'sais, viens prendre tel emploi ou viens faire ci ou fait. Je veux dire, ah mon Dieu, qu'on sauverait du temps si tout le monde disait clairement ce qu'il a envie, où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qui l'intéresse, au lieu d'attendre que les autres le fassent à leur place.
Mais non seulement on sauverait du temps, mais je pense qu'on serait beaucoup plus heureux aussi, là, comme société.
Oui.
Parce que, genre, d'attendre que quelqu'un vienne te sauver, ça va Disney puis les princesses en détresse, là, il n'y a pas personne qui veut.
Une autre influence vraiment constructive sur notre éducation, hey, ça.
Tu sais, voyons donc, là. Puis quand je le voyais l'autre fois, qu'est-ce que ma fille, elle m'a dit? Je me rappelle pas, en tout cas, puis j'étais comme, non, vraiment, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu sais, les relations de couple, puis tout ça. T'as pas besoin d'attendre après un homme qui vienne te sauver, tu sais. Ah! Ouais, mais c'est vrai, t'as raison, maman, mais c'est pas qu'il vient la sauver, mais non. En tout cas, elle avait sa propre explication, là, tu sais, qui fitait pas avec la mienne, mais moi, j'étais comme, t'as pas besoin, là, tu peux faire tout ce que tu veux, quand tu veux, regarde, maman, elle fait tout, tu sais, comme, on n'a pas besoin de personne d'autre à l'extérieur de nous, tu sais. On a envie d'être avec certaines personnes, mais on n'a pas besoin, tu sais, puis elle était comme, ah oh, oui, c'est vrai, ok, maman, nanana. Fait que j'étais comme, bon, au moins, on va peut-être rescaper ça. Ce mythe-là.
C'est fou. T'as soit le conte à l'extrême, là, où justement la fille se fait sauver par le prince, ou t'as les princesses hyper indépendantes comme Elsa, la reine des neiges, ou Méridia,
rebelle.
Qu'il n'y a pas de gars, là. Fait que, tu sais, mais on peut-tu comme avoir un exemple d'une relation saine où il y a égalité entre hommes et femmes? Ça serait extraordinaire. On n'est pas rendu là encore. C'est soit elle n'a pas de chum, soit elle est dépendante de son chum. C'est un ou l'autre dans
des... C'est vrai, hein? Puis ça serait tellement extraordinaire, mais même dans les... C'est ça, le messaging partout, là, dans les médias, dans les chansons, dans les... Tu sais, puis on dirait que plus on devient conscient de ça... L'autre fois, on écoutait la radio, puis genre, il y avait une chanson, puis j'étais genre, oh my God, c'est donc bien wrong, qu'est-ce qu'il dit, genre, dans... Tu sais, comme, j'aimerais personne d'autre que toi de toute ma vie, je vais mourir si tu reviens pas, nanana, je suis genre...
Mais mon Dieu.
Voyons donc, tu sais, comme... Puis ça a été ingrained à l'intérieur de nous pendant toute notre jeunesse, dans le fond, toute notre... Tu sais, tant que t'en prends pas conscience, c'est là, c'est partout dans le message général.
Imagine, la programmation est encore plus intense aujourd'hui, parce que nous, bon, quand on était jeunes, il y avait la télé, il y avait la radio, oui, mais là, avec l'ajout des réseaux sociaux, le temps d'écran, je pense que la programmation est encore plus forte chez nos enfants, parce qu'ils ont accès à encore plus de choses comme ça, puis je pense que... Moi, honnêtement, des fois, ça me fait même un peu peur. Tu sais, je regarde mes filles sur TikTok, puis il y a tout un travail de conscientisation derrière ça, puis c'est de plus en plus difficile à... parce que c'est tellement gros, il y a tellement de choses différentes qui se passent là-dessus. À un moment donné, ça devient encore plus difficile, je trouve, de les sensibiliser à tout ce qu'elles pourraient voir là-dessus, puis de les amener à avoir une pensée critique par rapport au contenu auquel elles ont accès. C'est pas toujours évident, sincèrement, puis je pense que encore plus aujourd'hui, tu sais, il y a un travail à faire pour amener les gens à penser par eux-mêmes, là, encore plus, parce que il y a tellement de comparaisons avec les réseaux sociaux et tout ça. Puis tu sais, pour en revenir avec encore, tu sais, notre situation, mm-hmm. ben finalement, on s'en est parlé, puis tu sais, moi, ça m'a arrangé, ça m'a sauvé de prendre l'autobus que je n'étais pas supposée prendre, finalement, j'ai eu plus de temps, toi, tu sais, fait finalement, c'est correct, on a trouvé notre compte à toutes les deux là-dedans. Moi, la première fois, ben tu sais, la première fois, c'était fortuit, là. je t'ai un peu oublié, tu n'étais pas dans mon calendrier, mais pour ce qui est de la deuxième fois, tu sais, toi, tu as exprimé un besoin, oui. Puis moi, tu sais, ça ne me posait aucun problème, donc j'ai pas eu à mettre de limites. Puis à l'inverse, dans l'autre sens aussi, tu sais, n'attendons pas, tu sais, que les gens devinent ce qu'on a de besoin. C'est, tu sais, exprimons-le. Puis pour les limites, c'est la même chose aussi.
Mais exprimons-le, mais tellement, ça, je pense que c'est, ça avec, c'est une autre affaire qui est programmée tellement profond, mais comme je l'entends tellement souvent, ça, des femmes, beaucoup, dans leur relation amoureuse, qui sont comme, ouais, mais ils devraient le savoir. Mais non, ils ne devraient pas le savoir. Pourquoi ils devraient le savoir?
Autant les besoins que les limites dans les deux cas. Ben, ils devraient savoir que ça ne se fait pas. Mais peut-être que lui, ça s'est toujours fait dans sa vie.
Seulement ça, mais en plus, 90% du temps, on a de la misère à savoir nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut pour de vrai. Comment on peut s'attendre à ce que l'autre personne le devine, tu sais? Voyons, c'est
que... Ça serait plus simple si tout le monde pouvait lire dans les pensées. Ça réglerait tellement de choses. Non, mais sans blague. Puis même là, ça serait pas plus simple parce qu'après ça, il y aurait tout le jeu des perceptions. Puis là, ça deviendrait un bordel parce que personne ne se comprendrait plus. Mais bref, je pense que se donner davantage l'autorisation, oui, de changer d'idée. Puis tu vois, c'est un peu ce que j'ai vécu avec le cégep, tu sais, de dire, regarde, c'était mon plan de carrière. Puis. Je me donne la permission de changer d'idée. J'ai travaillé fort, oui, pour me rendre là, mais c'est OK. Je me donne la permission de dire, finalement, ça ne sera pas ça, ma carrière.
Bien, non seulement ça, mais aussi de le voir comme, tu sais, tu as acquéri plein de compétences dans cet espace-là qui te servent aujourd'hui, j'en suis convaincue. Là.
Oh oui, vraiment.
Fait que, tu sais, même ton passage dans le monde de la petite enfance, là, je veux dire...
Oui, la vie est bien faite. Tu n'as même pas idée comme la vie est bien faite.
Il faut, tu sais, je me rends compte qu'il y a eu... Il y a eu plein d'itérations, tu sais, moi, de mon entreprise dans les 4 dernières années. Là, finalement, je suis ancrée, tu sais, dans où je suis, où j'ai envie d'aller depuis presque un an. Mais comme avant ça, il y a eu beaucoup, beaucoup d'itérations parce que j'étais moi-même sur mon chemin de reconnecter avec moi, tu sais, d'apprendre à me connaître et tout ça. Puis au début, j'ai beaucoup étudié la périnatalité, puis la petite enfance, justement, comment le développement du cerveau se fait des enfants et tout ça. Puis après... T'sais, pendant le chemin, je me disais, ah, c'est toutes des compétences perdues, j'ai perdu mon temps, nanana. Non, parce que maintenant, tout ce que je sais là-dessus, non seulement ça s'applique aux adultes aussi, genre vraiment souvent, mm-hmm. mais en plus, par rapport à toutes les perceptions qu'on ancrait quand on était mm-hmm. enfant, quand on travaille sur notre inner child, ben c'est vraiment pertinent de connaître tous les stades de développement et comment ça s'est ancré à ce moment-là, tu sais.
Quand tu as des clientes qui sont mamans aussi, tu sais, des fois, ça peut apporter un certain recul de leur... Tu sais, moi, là, quand je dis la vie est bien faite, c'est que l'addition de tout ça, finalement, aucune expérience n'est jamais perdue. Au même titre où je pense qu'on ne recule jamais dans la vie. Tu sais, moi, quand j'entends des gens dire « Ah, mais tu sais, j'ai reculé ou j'ai régressé. » Non, parce que c'est toujours une addition. Puis à un moment donné, c'est juste que l'addition de tout ça va finir par avoir un sens. Pour moi, toutes ces expériences-là, il n'y a rien de perdu parce que une à une, assemblées ensemble, m'ont permis de construire ce que j'ai aujourd'hui. Puis, c'est pas fini. J'ai quand même juste 38 ans, là. Ça se pourrait que je fasse complètement d'autres choses en 10 ans. Puis, contrairement à quand j'en avais 18, 20, là, aujourd'hui, je dis, je sais pas où est-ce que je vais être forcément dans 10 ans. Et non, c'est pas vrai que je vais me fermer des portes, tu sais. Je vais pas dire, moi, je ferai jamais ça ou je vais faire ce que je fais aujourd'hui toute ma vie, tu sais. J'ai pas envie d'avoir ce genre de généralisation dans mon discours parce que la vérité, c'est qu'on n'en a absolument aucune idée de où la vie va nous porter, des circonstances qu'on va traverser aussi, qui vont peut-être influencer nos décisions. Donc oui, ça peut encore évoluer, puis tant mieux. Puis ça évolue encore, hein, en passant. T'sais, je veux dire, moi, ça bouge, puis c'est correct, puis je me donne cette permission-là. Puis quand on se la donne, bien, on donne aussi la permission à nos clients, à notre famille, à nos amis, de davantage se donner le droit d'être qui ils sont, d'exprimer leurs besoins quand nous, on le fait d'abord. Donc, c'est une influence qui est super positive pour toutes nos relations. Quand nous, on se l'autorise, on le permet aux autres et tout le monde, finalement, est plus heureux de mieux se comprendre et d'être capable de communiquer davantage, mieux, en fait, plus sainement. Je pense que ça n'amène que du positif, alors qu'au final, qu'au départ, je veux dire, on pense que c'est égoïste. Mais non, je pense que, comme tu disais tantôt, c'est même un cadeau qu'on fait aux autres de se choisir d'abord et de se respecter aussi.
Mais tellement, là, t'as vraiment raison, là. Puis c'est un commentaire que j'ai eu dans ma famille dernièrement, là, mon beau-père qui m'a dit ça, justement. Ben, mon beau-père, en fait, c'est mon beau-père depuis que j'ai 4 ans. C'est le mari à ma mère. Mais il m'a dit, comme, le fait que toi, tu te permets d'être toi-même, puis de nommer les choses, puis de dire comment tu te sens, puis tout ça, ça m'apprend à moi nommer plus comment je me sens, au lieu de pas le dire pour pas déranger, puis dans le fond, après ça, je me sens pas bien avec ça, tu sais. Puis j'étais comme, c'est tellement beau, là, ça, à 72 ans, d'être capable de se dire comme...
Oh mon Dieu, oui!
Tu sais, j'ai envie, ouais, vraiment. Fait que, tu sais, on le voit pas souvent, l'impact que notre transformation à nous, elle a sur les autres. Fait que non, c'est pas égoïste, parce que non seulement nous, on est plus heureux, mais on peut mieux se présenter dans nos relations. On reprend notre responsabilité, fait qu'on arrête de mettre ce poids-là sur les autres aussi. Puis ça donne l'autorisation aux autres de, eux aussi, être eux-mêmes, tu sais, puis être plus authentiques. Puis c'est merveilleux, ça, là.
Oui, bien, on a beaucoup moins de frustration, en fait, souvent, à partir de ce moment-là. Puis combien de fois on reste frustré dans notre coin à ne pas exprimer quelque chose ou à ne pas oser demander. Et que si on l'avait fait, finalement, combien de temps on aurait sauvé en énergie, en ressenti, en tout, si on avait osé le faire, tu sais, au moment où ça émergeait. Ou même des fois, juste le fait de le faire tout de suite quand ça émerge, ben il y a beaucoup moins de dommages collatéraux que si on accumule pendant des années, puis à un moment donné, ça explose. Donc, moi, je pense que, oui, tu sais, c'est jamais facile à 100%, je pense, d'exprimer les choses. Mais je pense que tu as toujours un avantage plus grand que de ne pas les exprimer. Ça, j'en suis convaincue.
Oui, je pense moi aussi. Puis tu sais, souvent, quand tu parles de frustration, souvent on pense qu'on est frustré après l'autre ou après la situation, mais ce que j'ai fini par comprendre, c'est que c'est toujours après moi que je suis fâchée. C'est jamais après l'autre, dans le fond, tu sais. Parce que j'ai pas nommé mes besoins, parce que j'ai tu ma vérité au profit du ben pas bien-être, mais du confort de l'autre personne, en fait, parce que... Fait que dans le fond, c'est jamais de la faute de l'autre, tu sais, comment je me sens, là. C'est tout le temps moi, qu'est-ce que je me dis à l'intérieur ou l'interprétation que j'en fais, t'sais.
Mais ça, c'est beau ce que tu dis, parce que ça s'applique dans l'autre sens aussi, tu sais. Mm-hmm. Je veux dire, à partir du moment où tu t'inquiètes d'exprimer ce que tu ressens parce que tu crains que l'autre personne ait une mauvaise réaction ou se sente pas bien ou soit triste ou peu importe l'émotion, ben, c'est de te rappeler qu'au même titre, ses émotions, ses réactions lui appartiennent.
Oui, puis c'est comme si en le faisant pas, on se dit, genre, j'ai pas confiance que tu vas être capable de gérer l'émotion que ça va générer chez toi. Fait que je vais prendre cette responsabilité-là pour toi. Au contraire, genre, pourquoi pas?
Moi, ça me fâche, honnêtement. Ça me fâche quand quelqu'un me dit, j'ai pas osé te demander parce que, tu sais, moi, je suis comme, ouais, mais je voulais pas te déranger. Ouais, mais je veux dire, pourquoi tu voulais pas me déranger? Si je t'ai dit que tu peux me, tu sais, quand ça fait 2-3 fois que je le dis à quelqu'un, là, ça me fâche quand la personne persiste. Je suis comme, à un moment donné, vas-tu comprendre que tu me déranges pas? Et si tu me déranges, je vais te le dire que c'est pas le bon moment pour moi. Tu sais, ça, c'est ma job à moi. J'ai comme l'impression qu'ils prennent mon travail.
Ouais.
Ma job, c'est de te dire quand je suis pas disponible. C'est pas à toi de décider à ma place quand je suis pas disponible.
Ouais.
Donc, j'espère en tout cas que les personnes qui vont entendre ce message-là, ça va leur donner envie d'oser peut-être faire le tour peut-être des désalignements qu'ils ont actuellement ou des choses non exprimées, de peut-être en choisir une et d'essayer d'aller de l'avant pour en parler, pour voir, tu sais, quel poids ça peut enlever sur les épaules.
Mm.
Parce que c'est lourd tout ça.
Bien, c'est très lourd, tu sais. Puis en fait, c'est comme ton sujet de prédilection, je pense, là, bien, comme un de tes champs d'expertise. Fait que j'aimerais ça que tu nous en parles un peu de comment on peut justement, ben, je sais pas, là, moi j'appelle ça scanner ma vie, là, mais faire un scan de ma vie pour voir qu'est-ce qui est. C'est quoi mes fuites énergétiques, en fait? Qu'est-ce qui me prend plus d'énergie, qui m'en donne? Qu'est-ce qui est vraiment aligné ou qu'est-ce qui est peut-être plus aligné? Des trucs comme ça, tu sais, je sais pas si... Ouais.
Ben, tu sais, c'est tellement un travail continu parce que moi, ça, c'est pas rare que... Bon, j'ai beaucoup de clientes qui sont dans la performance. Travaillant en prévention de l'épuisement, c'est assez évident que ça va quand même être utile à des femmes qui sont dans la performance. Et elles vont arriver, puis elles vont s'attendre à avoir un genre de bilan, là, avec 100 questions, puis là, je remplis ça, puis je vais savoir exactement tout ce que j'ai à travailler et qu'est-ce qui va pas et tout ça. Apprendre à se connaître, encore là, c'est une couche à la fois. Puis je pense que tu peux te reposer exactement les mêmes questions chaque mois et avoir des réponses différentes.
Tellement.
Parce que la première fois que tu vas te poser la question, souvent, tu vas avoir une réponse complaisante. C'est-à-dire ce que tu aimerais être ou ce que tu veux dégager chez les autres. Et ça, même si tu le fais seul avec toi-même. Inconsciemment, c'est comme quand on remplit des tests de personnalité, c'est démontré. On a un billet où on veut être une bonne personne. Donc, on va embellir presque toujours les choses. Alors, la première fois que tu réponds à des questions, si tu n'as pas l'habitude de faire de l'introspection, il y a des bonnes chances que ce ne soit pas tout à fait la vraie réponse. Alors, moi, je dis souvent, laisse mûrir, on avance et on revient, et on repose, et on repose, et il se rajoute souvent une couche de plus, on commence à faire des liens entre les éléments. Apprendre à se connaître aussi, ben, c'est dans l'action que ça se passe. C'est pas juste dans l'introspection, c'est pas juste dans le questionnement, c'est dans l'action. Parce que ce que tu n'as pas expérimenté, tu peux essayer de le prédire, mais tu n'as jamais vraiment la réponse. Fait que tu peux pas dire, par exemple, moi, je suis gênée de parler en public. Si une seule fois dans ta vie, tu l'as fait, que ça s'est mal passé, tu ne l'as pas réexpérimenté depuis.
Mais ça a l'air niaiseux, mais l'exemple qui me vient avec ça, c'est genre, tu sais, les enfants, quand ils disent « Oh non, ça, j'aime pas ça. »
Ah oui.
« Tu as-tu déjà goûté? » »« Non, mais je le sais que j'aime pas ça. » Ben, tu sais, moi, chez nous, tu peux pas me dire que t'aimes pas ça si tu y as pas goûté. Si tu prends une mini bouchée puis t'aimes pas ça, finalement, j'ai pas de problème avec ça, mange-le pas. Mais,
non, mais c'est... essayé. Tu parles des enfants, mais on fait ça comme adultes souvent aussi, tu sais, quand on a des propositions. Puis ça, souvent, c'est toutes des programmations qu'on a aussi. On va faire des liens avec des situations ou avec des choses. Tu sais, l'enfant, ah, c'est un aliment un peu bizarre, donc je sais tout de suite, tu sais, je vais me protéger puis je prendrai zéro risque que ce soit pas bon. Parce que la dernière fois que j'ai dit oui à un aliment que je connaissais pas, c'était pas bon, mettons. Fait que là, on se met à faire des additions comme ça, puis finalement, ben, on se surprotège nous-mêmes de plein d'expériences qui pourraient être très, très révélatrices et apprendre vraiment à nous connaître. Donc, c'est dans l'expérimentation, je pense, le plus qu'on apprend à se connaître et dans l'auto-observation suite à nos expérimentations. Donc, d'apprendre aussi à se déposer.
Mais c'est comme, tu sais, quand on dit, t'as raison, tu sais, des fois on dit, oh non, ça, j'aime pas ça, mais on l'a jamais essayé. Mais en fait, moi, ce que j'essaie de dire, c'est, tu sais, quand tu te poses la question, qu'est-ce que j'aime vraiment faire, mettons, ah, oh, je sais pas. Bien, OK, tu le sais peut-être pas maintenant, mais peut-être que tu peux essayer plein de choses qui vont te donner des indices, en fait, sur qu'est-ce que t'aimes. Fait que peut-être que tu vas essayer l'escalade, puis tu vas aimer ça, mais pas trop. Genre, tu vas essayer le paddleboard, mais finalement, bien, le paddleboard, j'aime ça, mais j'aime pas ça y aller seule, tu sais, ou je sais pas, il y a plein de trucs comme ça. Tu sais, moi, j'avais toujours pensé que j'étais pas sportive, mais dans le fond, c'est que j'aime pas ça jouer au soccer puis au hockey, tu sais. Les sports qui nous montrent à l'école, tu sais.
Oui, c'est, ben, comme... c'est ça.
Fait que c'est d'aller expérimenter à l'extérieur de qu'est-ce qu'on connaît, puis au lieu, quand c'est pas quelque chose qu'on aime finalement, ben c'est jamais une perte de temps ou un échec. C'est juste des indices qui nous permettent d'en apprendre plus sur nous, en fait, t'sais.
Puis des fois, qui t'amènent ailleurs. Puis ça, c'est intéressant. T'aimes peut-être pas le paddleboard, mais finalement, tu te rends compte que t'adores être sur l'eau. Fait que ça va peut-être être un lien que tu vas faire pour trouver d'autres occasions, d'autres opportunités d'être près de l'eau. Fait que, tu sais, c'est de oser, en fait, sortir de sa zone de confort parce qu'on généralise beaucoup. Tu sais, notre cerveau fonctionne par catégorie. Donc, comme tu as dit, ben j'aimais pas deux sports, donc je n'aime pas tous les sports. Tu sais, on met tout dans le même panier. On fait ça énormément, donc de décortiquer à la place et de se dire, tu sais, vraiment, chaque élément est complètement différent. C'est toutes des expériences différentes. Donc, de faire attention aussi dans notre discours intérieur. Tu sais, tous les « toujours », »,« jamais », tu sais, c'est bien rarement vrai là, que c'est « jamais » ou « toujours ». Puis moi, je me challenge moi-même souvent quand je dis « toujours ». Ah oui, « toujours », combien de fois, tu sais? Juste pour comme « ah, finalement, c'est peut-être pas toujours ». De faire attention dans la façon dont on se parle quand on utilise ces mots-là, puis quand on parle aux autres aussi, parce que c'est lourd encore là comme poids de généraliser de cette façon-là.
C'est fou, je le vois avec mes enfants, tu sais, ça, je le fais, mettons, à chaque fois que je te demande de ramasser, tu ramasses jamais. Mais c'est pas vrai que c'est jamais, comme tu dis, mais eux, ça leur met un poids incroyable, là, aussi, fait que j'essaie, moi aussi, de me rattraper.
Je suis jamais assez.
C'est ça, oui.
Mais c'est ce réflexe de catégorisation-là, puis de généralisation qu'on a, ben c'est aussi celui-là qui fait qu'on se ferme énormément, qu'on prend pas de risques parce qu'on est dans une surprotection continuellement. T'sais, on met tout ça dans le même panier, puis là, toutes les autres expériences qui s'y rapprochent ou avec lesquelles je fais un lien, ben ça, je les mets dans le même panier. Ça, c'est non. Ça, c'est oui. Ça, c'est non. Puis au même titre, dans l'inverse, on dit oui à une chose, ça veut pas dire qu'on va vouloir dire oui à tout. Fait qu'il faut donner le droit aussi de dire oui à une chose, mais peut-être pas oui à tout ce qui est rattaché à cette chose-là. Donc, de se dire que c'est correct, tu sais, il n'y a pas une façon. C'est pas t'es sportive ou t'es pas sportive. Tu sais, il y a tellement de nuances que notre espèce de manie à mettre des étiquettes sur tout fait en sorte qu'on se donne pas la possibilité, tu sais, d'être dans ces nuances-là. Peut-être que moi, j'aime le paddleboard, mais une, deux fois par année, ça me suffit. Tu sais, je suis pas obligée d'aimer le paddleboard et de vouloir toujours faire 8 heures de paddleboard et de partir, tu sais. Donc, c'est de se donner le droit de, oui, je peux aimer quelque chose, mais j'ai droit à mes propres critères. Mmh. J'ai droit à ma propre façon d'aimer cette chose-là. Je suis pas obligée de l'aimer comme tout le monde l'aime, d'une façon très stéréotypée. Tu sais, souvent, on va se mettre une pression. OK, moi, je veux être dans la bienveillance, donc être bienveillante, c'est ça. Donc, je dois absolument faire ça, 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 ça. Mais la question, c'est quoi la bienveillance pour toi? Pourquoi tu veux être bienveillante? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Comment toi, tu définis ça? Et comment ça fait du sens pour toi? Plutôt que, ben cette personne-là, elle dit qu'elle est bienveillante, moi, je veux être bienveillante, donc je vais faire exactement la même chose que cette personne-là. Mm. Encore là, c'est notre réflexe de généraliser. Si une personne dit ça... Une personne dit qu'il faut se lever à 5 heures du matin pour être en santé. Je vais me lever à 5 heures du matin. Même si c'est complètement désaligné, c'est pas grave parce que je veux être en santé. Tu sais, il n'y a pas un chemin à rien dans le fond. C'est surtout ça que je veux dire.
Non, c'est ça. Il y en a autant que d'êtres humains. Puis c'est ça qui est merveilleux, en fait, tu sais, d'apprendre à découvrir ce chemin-là pour nous-mêmes. Puis tu sais, c'est pour ça que moi, je pense que, tu sais, j'aime ça donner des informations, beaucoup, mais après, tu prends qu'est-ce qui vibre avec toi là-dedans, parce que qu'est-ce qui a fonctionné pour moi fonctionnera peut-être pas pour toi, tu sais.
Tellement.
Il y a pas de... Je peux pas te dire quoi faire. Je vais jamais pouvoir te dire quoi faire. La seule personne qui peut te dire quoi faire, c'est toi-même, tu sais.
Exactement. Donc, poser des questions, puis on est aligné là-dessus sur la façon de transmettre aussi, parce que clairement, moi, je crois pas qu'il y a une vérité, tu sais. Je pense qu'à partir du moment où, puis encore là, même nous, avec nous-mêmes, cette vérité-là, elle est continuellement changeante. Fait que si je dis toujours aux gens quoi faire, ben ça se peut qu'à un moment donné, ils trouvent que je suis pas cohérente parce que ça se peut que j'essaie des choses différentes à un moment donné aussi, puis que je te dis de faire complètement autre chose. Tu verras peut-être pas le sens, toi, mais moi, je le vois parce que ça fait partie de mon cheminement, puis je fais tous les liens nécessaires pour comprendre ce qui m'a amené là. Mais pas toi. Donc, je peux pas juste dire, ben faites tout exactement comme moi, puis vous allez avoir les mêmes résultats. Tu sais, c'est impossible. Ça fait aucun sens, ce genre de méthode-là. J'arrive même pas à comprendre à quel point c'est encore vendu et comme étant la solution des méthodes toutes faites.
Mais est tellement répandu, là. Mais c'est de même dans tous nos systèmes, là. Dans le système de santé, dans le système scolaire, dans tous les systèmes, c'est comme ça partout. Là, genre, il faut suivre une seule procédure, puis c'est ça la procédure, tu sais. La procédure X, genre, c'est ça qu'il faut qu'il fasse parce que c'est ça qui fonctionne. Mais ça se peut pas, tu sais. On peut-tu juste redonner le pouvoir aux gens, puis genre avoir confiance là, que chaque être humain est capable de prendre les bonnes décisions pour lui-même, tu sais.
qu'il n'y a pas personne qui a besoin de prendre les décisions pour quelqu'un d'autre. C'est comme, je sais pas.
C'est fou quand même. Mais t'as raison que c'est répandu et non seulement c'est répandu, mais je pense qu'il y a une espèce de désir de... C'est perçu comme étant plus facile comme ça.
Oui.
À tous les niveaux. Et même, c'est pas rare que c'est les gens qui viennent vers moi qui veulent une méthode toute faite. Et que je leur dis, mais non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Puis je préfère vraiment enseigner à mes clientes à se poser des questions puis à trouver leurs propres réponses parce que selon moi, c'est un outil qu'elles vont utiliser toute leur vie que de leur donner des réponses.
Mais tellement! Puis tu sais, le but ultime du coaching ou de n'importe quel accompagnement, je pense, c'est que la personne, elle soit capable de s'accompagner elle-même, éventuellement qu'elle aille développer les outils qui fonctionnent pour elle pour qu'elle soit capable de s'accompagner elle-même, tu sais, qu'elle n'ait pas besoin d'une source extérieure tout le temps, tu sais, mais j'ai pas... En tout cas, je sens pas que c'est encore tout dans ça qu'on est dirigé, tu sais, les structures en place, en fait, un peu partout dans le monde, là, pas nécessairement dans le monde du coaching puis de l'accompagnement, là, mais...
Non, puis en même temps, si on est cohérente avec ce qu'on a dit aujourd'hui, en même temps, ils ont leur vérité et leur raison d'être dans cette vérité-là.
Ouais.
Sauf que moi, cette vérité-là, elle ne me convient pas.
Exactement.
De toute façon, je suis très manifesteur, c'est-à-dire qu'on ne me dit pas vraiment quoi faire, moi, dans la vie. Je m'arrange avec ça. Fait que j'aime pas vraiment les boîtes. Et j'adore ton titre de podcast, d'ailleurs, parce que moi, je sais que je ne rentre pas dans les boîtes. Je suis pas bien dans les boîtes. Donc, c'est ce qui m'amène à faire ce que je fais aujourd'hui, puis d'être mon propre patron, mais mon propre bourreau, des fois aussi, mais ça vient avec la responsabilité de ça. Ouais.
Ouais, c'est fou. Puis là, je vais être respectueuse de ton temps, je vais être respectueuse du temps de tout le monde aussi. Je parlerai avec toi pendant vraiment longtemps, mais est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager pour la fin? Puis aussi, où est-ce que les gens ils peuvent trouver plus de toi?
Ben, en fait, mon espace préféré de communication, c'est Instagram. Donc, je suis très généreuse de contenu sur cette plateforme-là. Mais il y a d'autres choses en développement. J'ai des outils gratuits aussi. Je vais redémarrer une infolette et tout ça. Donc, les gens peuvent, à partir d'Instagram, un peu trouver tout ce qui gravite autour de moi. Puis, pour conclure, ben, tu sais, je dirais simplement de se rappeler que au final, soyons nous-mêmes. Puis je pense que juste le fait d'être nous-mêmes, et si tout le monde s'autorise à être soi-même, au final, ben je pense juste que le monde ne peut qu'être meilleur comme ça, puis que ça, toutes les choses seront plus simples. Puis autant on peut avoir peur de déplaire ou de fâcher les gens, je pense que si tout le monde se montre tel qu'il est, au final, ben, il y en aura juste moins de frustration, moins de colère, moins de conflits. T'sais, c'est beaucoup une perception qu'on a que finalement, ça va comme créer des problèmes. Mais généralement, c'est quand on arrive en pas transparent que là, ça amène toutes sortes de quiproquos, de situations comme rocambolesques et tout ça, puis que finalement, on se comprend pas, puis que c'est donc tellement plus compliqué, puis on le sait, là, quand on prend des chemins compliqués pour rien, finalement, on prend deux fois plus de temps pour arriver au résultat. Donc, soyons nous-mêmes, prenons ce risque-là, parce que je pense qu'on a tout à gagner de le faire.
Wow, merci. Oui, t'as raison. Puis merci pour ces beaux mots pour la fin, puis ta présence avec moi aujourd'hui.
Bien, merci à toi pour l'invitation, ça m'a fait plaisir de te jaser.
Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère de tout cœur que l'épisode a vibré avec toi. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message puis de permettre à plus de gens de découvrir le podcast. Et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, s'il te plaît, partage l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul avec ce qu'on vit. Je te souhaite une merveilleuse journée puis je te dis à la semaine prochaine!